Moi, ce matin, tout va bien, il y a du beau temps, il y aura de la poésie, la belle vie, quoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les antennes de Principe Actif et de la radio HDR. Vous êtes dans le pire reste à venir. Nous sommes le jeudi 16 mai 2024 et tout va bien. Au sommaire de cette émission, en plus de la co-animer avec Stella. Bonjour Stella.
Bonjour JC.
On va commencer comme ça, comment vas-tu?
Bah bien et toi?
Bah écoute, impeccable, j'ai dit soleil, invité, poésie, il y a tous les ingrédients pour passer une bonne matinée et j'espère qu'on va partager ça avec nos auditeurs.
Oui, bah oui, carrément.
Alors au sommaire de cette émission, nous irons faire un petit tour du côté de Vivacité, ce festival des arts de la rue qui va se dérouler ce week-end. Ouais, cette année ça a un petit peu changé. Dans l'organisation dont on avait pris l'habitude durant 35 années quand même. Là, ça change un peu, ça bouscule nos habitudes, ça arrive ce week-end. On aura l'occasion d'en reparler avec Anne Le Goff, la directrice artistique de ce festival. Nous parlerons également cyclisme parce qu'il va se dérouler le Tour de l'Eure en junior ce week-end également. Il y a plein de choses ce week-end. Donc, ça va se dérouler ce week-end. On aura l'occasion également d'en parler avec Gérard, le président du club de cyclisme qui porte cette action. Nous parlerons également sport adapté, et ça c'est toi qu'on retrouvera un peu plus tard dans cette émission.
Oui, c'est ça.
Donc hâte de retrouver cette chronique autour du sport adapté. Qu'est-ce qu'on mettra dedans encore? Du bon son, de la bonne humeur, de la rigolade. En fait, la recette du pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir, la matinale du matin qui va bien.
Les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Radio Principe Actif.
Alors écoute, 99.1
HDR
et 102.4 FM.
Radio Principe Actif.
Du bon son, de la bonne humeur et des bons plans.
Il reste à venir.
Ouais, c'est nous. Et ça fait ça fait 2 semaines que j'ai un morceau que je veux absolument placer. C'était la souris parce qu'elle y a eu droit en avant-première, un morceau que je veux placer dans une émission. Ça fait 2 ou 3 semaines que je n'arrive pas à le placer. Et ça va être pour vous ce matin. Vous voulez du groove? Et ça va être It Feel Good avec un collectif de musiciens issus du groupe issus du label Wolf. C'est Good Vibes.
It feels good to ride a bike. I said, it feels good to ride a bike.
Pour bien démarrer, voilà. I feel good avec j'arrivais pas à les trouver tout à l'heure. C'était Antoine Stanley et Jacob Jeffries. C'est bah voilà, c'est du bonbon à écouter le matin. Moi, ça me met la patate. Vous avez vu, ça a vraiment démarré. C'est parti. Voilà. Il est l'heure de retrouver notre répondeur téléphonique.
Salut la matinale.
Hi,
bonjour.
C'est moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
I like a mauvaise mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Bonjour. Une date à retenir dès maintenant, le samedi 18 mai. Le Secours Populaire de Gravigny organise un loto, salle Gérard Philippe à Gravigny. Ouverture des portes à 19h, début des jeux à 20h30. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 06 26 06 43 07 ou vous inscrire dès maintenant auprès de Jeanne. Alors, je recherche le numéro.
On n'est pas pressé. Non, bon, on le redonnera plus tard, alors, pour s'inscrire auprès de Jeanne. Secours Pop qui organise un événement.
Bonjour à tous et à toutes. Voilà, ce matin, je voulais partager avec vous un petit poème, un haïku, un poème japonais court que j'ai écrit pour vous. Dans le ciel bleu, un petit peu de soleil chante ce matin. Signé un poète anonyme. Bonne journée, à bientôt.
Ah ben là, la journée peut être que bonne. Un morceau qui groove à mort, un poème sur le répondeur. Eh bien, bah voilà, moi, la journée, elle s'attaque sur les meilleurs rails, dans la meilleure direction possible. Je vous le dis régulièrement, laissez-nous un message. Ce répondeur est à vous au 02 32 62 57 32. 02 32 62 57 32. Laissez-nous des informations, un événement, un coup de cœur, un coup de gueule ou un poème. Et les poèmes, moi, j'aime bien ça le matin quand on arrive. On diffuse le répondeur aux environs de 8h10 en général, dans ces environs-là, les matins de matinale. N'hésitez pas à nous laisser de la voix sur le répondeur, auditeur d'Evreux, auditeur du sud du département de l'Eure, auditeur de Rouen. Principe Actif et HDR diffusent vos messages le matin vers 8h15. Juste avant de retrouver Anne Le Goff, la directrice du festival Vivacité, on va se mettre dans l'ambiance et je vous laisse découvrir le bal des oiseaux.
Mmh.
Extrait du bal des oiseaux. J'ai été l'attraper d'ailleurs sur le teaser de ce bal des oiseaux. On va y revenir dans un instant. Nous sommes avec Anne Le Goff. Bonjour Anne, comment vas-tu?
Bonjour.
Allô, je vais très Anne. Bien.
Oui, allô.
Oui, bonjour Anne, comment vas-tu?
Bonjour, je vais très bien, merci.
Alors, nous sommes avec Anne Le Goff, qui est directrice de l'atelier 231, qui est aussi la directrice artistique du festival Vivacité, dont nous allons parler ce matin. Mais avant de commencer, alors oui, nous sommes avec Stella également, qui est au micro avec nous, je te dis tout, vu qu'on est au téléphone, Anne. Mais avant de commencer notre échange, Anne, comment vas-tu? Où en es-tu dans ta journée? Est-ce que tu es rendue aux tartines, aux bols de céréales, au thé, ou la journée a déjà commencé depuis un moment?
La journée a déjà commencé parce qu'on finit vraiment tous les préparatifs. C'est vraiment de la dentelle, hein, l'organisation de ce festival. Il y a plein de choses qui s'articulent dans tous les sens avec toutes les équipes. Donc c'est un vrai travail minutieux. Donc on se lève très tôt, on se couche tard toute la semaine de Vivacité pour préparer les meilleures conditions possibles pour accueillir tout d'abord les artistes qui commencent à arriver là depuis dimanche déjà, qui commencent à monter leur scénographie, etc. Mais aussi les publics, les répétitions qui ont déjà commencé avec les amateurs sur les projets participatifs. Donc voilà, on est vraiment là dans la semaine pour nous. Vivacité, ça commence le lundi. Hein.
Alors, tu es en extérieur, en intérieur. Qu'est-ce qui se passe autour de toi?
Alors là, je suis en intérieur parce que je me suis mis dans un endroit calme pour pas avoir de bruit autour. Bon, si j'étais dans le bois de la Garenne, par exemple, au cœur de Sotteville, je serais au milieu des graines géantes des plastiqueurs qui sont nos chers scénographes du festival depuis plus de 30 ans et qui ont construit cette scénographie depuis l'année dernière, de graines géantes qui sont apparues dans le bois l'an dernier. Et qui vont germiner cette année avec des fleurs, des fruits, etc. Donc la scénographie est déjà en place, il y aura des premiers essais lumineux ce soir. Donc voilà, j'entendrai peut-être les oiseaux, et puis cette ambiance toute particulière de ce Vivacité qui s'installe.
Alors justement, on va y revenir sur Vivacité. Je le disais en introduction, tu es directrice de l'atelier 231. En quelques mots, qu'est-ce que cet atelier qui porte le festival Vivacité, notamment depuis oui, un paquet d'années quand même, 35e édition hein, cette année. Donc qu'est-ce que l'atelier 231?
Alors, juste avant de répondre à cette question, je précise toujours que le festival est d'abord, dans les années 90, une initiative et une production de la ville de Sotteville-lès-Rouen, qui a initié ce festival, qui a pris source aussi dans la fête des associations, etc. Donc, c'est vraiment, l'histoire de ce festival est d'abord très, très liée à l'histoire de la ville de Sotteville-lès-Rouen, prend racine aussi dans l'esprit d'éducation populaire très cher à la ville, l'esprit autour de la jeunesse, de toute la dynamique associative. Donc ça, c'est toujours important de le rappeler parce que un festival qui dure 35 ans, c'est toujours parce qu'il prend racine dans des choses un peu fortes comme ça, des valeurs portées aussi par tout un ensemble. Alors évidemment, ce festival, il est co-réalisé avec l'atelier 231, qui est Centre national des arts de la rue et de l'espace public, notamment pour toute la partie artistique, professionnalisante, structurante, puisque en tant que centre national basé à Sotteville, on est le seul en Normandie, on a des missions avec un cahier des charges, on est un label d'État autour de cette mouvance artistique, et on a tout un tas de missions autour de la création artistique, de l'accompagnement des artistes, des créations, du repérage de l'émergence artistique, de ces artistes qui créent dans, pour, avec l'espace public, mais aussi la diffusion, tout le travail de réseau de territoire sur l'ensemble de la Normandie et de la Seine-Maritime. On a aussi un rayonnement métropolitain, bien sûr, avec cet ancrage très fort à Sotteville, puisque nous sommes basés dans un lieu qui est une ancienne friche ferroviaire, où se construisaient les Pacific Vapeurs 231. Donc c'est vrai que c'est une friche culturelle qui a aussi énormément de qui gagne à être visitée puisqu'il y a une histoire très forte autour de la culture ouvrière de Sotteville. Et elle est destinée maintenant à accueillir les artistes qui viennent créer dans des ateliers de construction, qui viennent répéter. Voilà, on a aussi plein d'autres missions. Je vais pas trop. Le mieux c'est de venir parce que toute l'année on fait des visites de chantier. Donc moi, j'invite le public aussi, pour prolonger Vivacité ou se préparer à Vivacité, de venir à l'atelier 231 sur les visites de chantier. ce sont des répétitions ouvertes au public. Il y en a à peu près une à deux par mois en fonction des résidences, des compagnies en résidence. Et elles montrent des bouts de spectacle. Et c'est toujours un moment super sympa. On a nos cuisiniers Didier et Brigitte qui font à manger pour le public, pour les artistes. Tout ça se mélange, tout ça discute. Voilà un petit peu pour la présentation
de la télé. C'est la philosophie des arts de la rue, c'est s'emparer de l'espace public, mais c'est surtout inviter aussi le spectateur à s'en emparer également de cet espace public.
Oui, c'est vraiment cette idée de retrouver une utilisation différente de nos espaces communs, de ces espaces publics qu'on traverse quotidiennement pour aller travailler, pour aller faire des courses, pour aller au restaurant, au cinéma, etc. Mais c'est vrai qu'on s'y arrête peu, ou en tout cas de moins en moins. Alors après, ça dépend aussi des cultures de cet espace public. Je pense que dans le sud de la France, il y a une autre pratique de l'espace public. En Bretagne, qu'il pleuve, qu'il vente, les gens sortent avec les caouets. En Normandie, on est un peu pareil. Mais voilà, ces pratiques de l'espace public, c'est les artistes, en fait, utilisent la ville comme une scène à 360 degrés. On a d'ailleurs l'Université de Rouen avec Magali Cizorne, qui est chercheuse en sociologue, qui va venir avec un groupe d'étudiants et de chercheurs pour interviewer les gens sur cette thématique de la ville, des villes en scène, des villes qui se font scène pour les artistes, pour la créativité, pour l'échange, la rencontre, qui fédère aussi les gens. Et puis la ville se transfigure aussi avec vivacité, puisqu'il y a cette scénographie, il y a tous ces lieux de convivialité qui sont investis dans le bois de la Garenne, à l'atelier 231, dans l'espace Marcel Lotte. Donc c'est vrai que la ville vraiment change de visage. Tous les acteurs de la ville se mettent au diapason de vivacité, puisque ils nous accompagnent. Le lycée Samba ouvre grand sa grande cour, ses espaces pour accueillir les artistes et le public. Le CHVP, le centre hospitalier du Bois-Petit, nous ouvre aussi ses portes, parfois le centre hospitalier du Rouvray. Enfin, voilà, on a beaucoup de lieux, les écoles nous ouvrent leurs cours d'école, les gymnases, les équipements sportifs, parce que, évidemment, c'est un grand ensemble, ce festival. Donc, on utilise le moindre espace qu'on peut trouver dans cette ville, et je crois que les gens aiment beaucoup se retrouver en extérieur comme ça, avec la fête, cette ambiance, cet esprit très très particulier. Il y a que vivacité qui amène cet esprit-là.
C'est ce que j'allais dire, il y a des centres un peu d'activité, et notamment le Bois de la Garenne est un des centres d'activité quasi permanent, mais il y a aussi toutes les déambulations ou les endroits sur lesquels on peut aller assister à des spectacles. C'est un festival mouvant, en fait, sur la ville de Sotteville. Il y a des partenariats, oui. Tu l'évoquais à l'instant, avec la cour du lycée Marcel Samba. En fait, il y a aussi en amont un travail qui est fait avec, j'ai envie de dire, des partenaires, mais notamment le lycée Marcel Samba.
Oui, disons que c'est vrai qu'un tel événement, qui a 35 ans, qui a réuni 90 000 spectateurs sur deux jours, avec 250 à 300 représentations, 450 artistes qui arrivent, 350 à 400 professionnels en fonction des éditions. Donc voilà, c'est vraiment un gros événement. Donc évidemment, il ne pourrait pas se tenir sans d'abord des partenaires financiers aussi. C'est important de les citer, puisque la DRAC de Normandie, la région Normandie, le département de Seine-Maritime et la métropole Rouen-Normandie nous accompagnent avec la ville de Sotteville et l'atelier dans ce festival, avec des financements, des aides. On a aussi des partenaires privés qui sont dans notre programme et qui nous accompagnent. Et puis, tous ces partenaires, dont on pourrait dire qu'ils sont indirects, mais en fait, ils sont cruciaux, ils sont vraiment au cœur de l'organisation, ces partenariats avec ces lieux qui nous ouvrent leurs espaces pour les loges, pour les artistes, les espaces de jeu. Le lycée Marcel Samba, il assure la restauration des équipes habituellement. Donc cette année, comme on est au mois de mai, on s'est un petit peu avancé. On va être restauré à l'atelier 231 et au lycée des Bruyères. On a adapté les choses, mais habituellement, la restauration se fait au lycée Marcel Samba, dans les cuisines du restaurant scolaire. Donc voilà, il y a plein de partenariats qui font que... Il y a de l'hébergement d'artistes aussi. On a aussi des habitants qui nous proposent de pouvoir accueillir des artistes chez eux. Donc c'est vraiment un ensemble qui se tient par la bonne volonté de chacun, mais c'est pas que de la bonne volonté. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de désir autour de ce festival. Les gens sont heureux de revoir arriver Vivacité, c'est un rituel. Et chacun y trouve une petite place, un rôle, quelque chose qui fait que ça marche et que ça, ça fonctionne avec la ville. Le festival est fabriqué par la ville, par les habitants, en plus d'une équipe très professionnelle et très engagée.
On parlait d'appropriation de l'espace public par les artistes et le public, mais il y a également l'appropriation du festival par les habitants et tous ceux qui font la vie de Sotteville notamment. Et ça, c'est oui, plutôt pas mal cette appropriation.
Oui, complètement. Alors, c'est vrai que ça s'organise aussi, c'est-à-dire que si on met pas en place des choses pour que les gens se sentent concernés, qu'ils aient envie de participer, qu'il y ait un peu des écrins comme ça, des invitations pour venir soit fabriquer en atelier de scénographie des choses. Là, cette année, c'est un petit peu place aux jeunes. Alors, c'est une édition anniversaire aussi festive et on pourra y revenir sur la question plus artistique. Mais en tous les cas, c'est aussi, j'ai envie de dire, place aux jeunes parce que on a des partenariats avec l'école d'architecture de Normandie sur la scénographie avec les étudiants, une vingtaine d'étudiants en quatrième année de l'école d'architecture. Donc il y aura 4 œuvres construites par eux, scénographiques, placées dans la ville, place de l'hôtel de ville. On a aussi, donc en lien avec les plastiqueurs bien sûr, on a aussi un parcours, on a une Ève, une stagiaire qui travaille auprès de Jeanne Vaillant, notre chargée de l'action culturelle à l'atelier 231. Et elles ont toutes les deux réfléchi à une action de médiation pendant le festival, spectateurs de rue, pour découvrir les arts de la rue autour d'un pique-nique, l'histoire des arts de la rue, des outils d'analyse pour affiner son regard des spectateurs. Ça sera samedi. Il y a encore quelques places d'ailleurs, donc je vous en parle parce que si ça intéresse des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, mais bon, on l'avait un petit peu destiné aussi à des jeunes qui connaîtraient pas les arts de la rue. C'est à partir de midi, samedi 18, il y a tout un programme. Ça s'inscrit aussi dans le cadre du Pass Culture. Et donc ça, c'est vraiment des actions qu'on met en place pour dire vous n'êtes pas perdu complètement quand vous ne connaissez pas. On a plein d'entrées, on vous invite. Il y a le parcours famille pour les parents avec leurs enfants, pour accompagner, guider aussi des nouveaux spectateurs qui ne connaissent pas forcément les festivals. La jeunesse, ça passe par l'option théâtre qui, cette année exceptionnellement, comme on se situe plutôt au cœur du printemps, on est sur des temps de restitution de projets d'action culturelle. Donc, on a ces jeunes de l'option théâtre qui vont faire la présentation de leur projet J'habite à Sotteville-Hermont, accompagné par le groupe TON, notre compagnie associée. Et donc, une vingtaine de lycéens vont présenter ce spectacle en déambulation sur l'histoire de Sotteville à partir de textes de Pérec, Paul Blancard, etc. Donc, vous voyez, les jeunes, on les retrouve aussi dans le coup d'envoi. Il y aura une centaine d'élèves du CE2 au CM2 qui vont participer au coup d'envoi. Voilà, il y a aussi cette question de la jeunesse qui est intergénérationnelle, mais il y a un petit focus sur la jeunesse, hein, particulièrement sur cette édition anniversaire des 35 ans.
Je sens vraiment, et de la façon dont tu nous le dis, que c'est un festival à partager dans la conception aussi, un festival d'appropriation, comme je le disais tout à l'heure. Quand on parle d'art de la rue, quand même, il y a aussi bien, on va retrouver la danse, la musique, le théâtre, on va retrouver énormément d'art, mais surtout des arts qui se croisent. J'ai la sensation, moi, pour avoir assisté à plusieurs éditions, et en voyant le programme là, j'ai vraiment la sensation que ces arts de la rue, justement, c'est un croisement d'art aussi.
Oui, un croisement effectivement d'art, de différentes disciplines, et c'est pour ça qu'on parle plus d'une mouvance artistique, parce que, alors il y a toujours une dominante, il y a une dominante de théâtre, une dominante de danse, de cirque, après il y a des projets qui mixent et qui croisent et qui sont dans un métissage le plus large possible. Alors on va retrouver des projets qui vont être autour du conte, du théâtre d'objets, d'autres qui vont mêler vraiment toute une matière théâtrale et danse, avec la compagnie Adoc par exemple, qui a vraiment une matière artistique très particulière et propre à leur compagnie, dans ce mix de danse-théâtre. On a des sortes de performances ou installations spectacles, parce qu'on a pas mal d'artistes européens qui viennent cette année, qui nous proposent des choses assez étonnantes. L'Arch de l'artiste britannique Seth Honor, Là, c'est une performance avec aussi de la création sonore, du chant, mais la construction de cette arche, c'est plutôt là les arts plastiques qui se mêlent au chant et à la performance, au spectacle vivant. On a le bal des oiseaux qui va mêler costumerie, groupe de musique et puis toute une narration, une espèce de bal en cinq actes. Donc il y a aussi, ça vient s'inspirer aussi de l'opéra, de tout un tas du théâtre, etc. Donc oui, c'est vraiment passionnant. C'est pour ça aussi que c'est toujours renouvelé. C'est-à-dire que même s'il a 35 ans ce festival, il y a toujours des endroits de surprise artistique, toujours des endroits de, comme on dit, de choc esthétique. Parce que les arts de la rue, quand ils sont arrivés dans les années 80, ils ont provoqué un réel choc esthétique pour les spectateurs qui n'étaient pas du tout habitués à ce type de d'intervention des artistes. Et je crois qu'il y a encore cet esprit-là. Je crois qu'aujourd'hui, alors les gens qui connaissent, les aficionados, bon, ils ont peut-être plus ils ont des habitudes, ils connaissent les équipes, mais cette année, on a invité pas mal d'équipes qui sont moins connues des festivaliers de vivacité. Donc, c'est chouette, il va y avoir beaucoup de découvertes, ça va être très riche.
Et puis, ces arts de la rue et ce festival en particulier, c'est aussi un festival où on va se faire surprendre, en fait. Quand on est spectateur, on a la possibilité de voir plusieurs spectacles qui s'enchaînent, qui se suivent. Bien souvent, même si on vient pour un en particulier ou si on a repéré quelque chose, on va avoir d'autres spectacles, d'autres présentations. Et c'est toujours se faire surprendre. Les arts de la rue permettent ça aussi, c'est de soulever un petit peu le spectateur et de l'emmener là où il s'y attendait pas. Et ça, c'est une des particularités aussi de la programmation de vivacité.
Oui, je crois qu'on a aussi, comme on dit, différentes typologies de spectateurs. Il y a vraiment des gens qui arrivent avec toute la famille, qui viennent d'abord pour la convivialité, d'ailleurs, hein, parce que c'est surtout pas à négliger. C'est pour ça qu'on prend grand soin aussi à ce qu'il y ait des buvettes, des restaurations du monde, des saveurs. C'est encore une fois, c'est un métissage, hein, ce festival. Donc, métissage des disciplines artistiques, des saveurs du monde. Là, encore plus un métissage parce qu'on a 25% de la programmation qui est européenne. Mais donc, les gens vont trouver des lieux de convivialité, de quoi se poser dans la pelouse, pique-niquer, manger, se retrouver entre amis. Et puis, évidemment, plein de spectacles, plein d'ambiances différentes. Ça peut être l'ambiance de l'atelier 231 n'est pas la même que celle du Bois de la Garenne, que aller dans la ville sur une déambulation dans les rues. Je crois qu'il y a vraiment des pratiques très différentes. Des gens qui connaissent très très bien le festival, donc, qui arrivent avec leur programme, ils ont déjà tout surligné, ils se sont préparés, ils veulent en voir le maximum, ils ont regardé les enchaînements, comment mieux enchaîner les lieux et pas traverser la ville de
Il peut y avoir des stratégies. Oui, il peut y avoir des stratégies comme ça.
Voilà, et puis d'autres qui se laissent complètement porter, qui préfèrent se laisser happer par quelque chose, un son, une voix, des applaudissements, ou le bouche à oreille, qui fonctionne beaucoup aussi hein, sur les festivals de rue. Les gens se parlent beaucoup dans le public. « Ah, est-ce que vous avez vu ça? Ça, c'est formidable. Ah, ça, j'ai moins aimé. Ça. » Ah, bah, parce que évidemment il y en a pour tous les goûts, hein, et on n'est pas obligé d'apprécier l'ensemble de ce qui est proposé. Mais je crois qu'on trouve toujours des coups de cœur, des pépites. Enfin, moi, je le sens quand j'entends j'écoute beaucoup les publics, je regarde beaucoup les publics aussi, parce qu'on doit savoir aussi, on programme pour le public avant toute chose. C'est vrai que c'est important de voir la réception de tout ça.
Je te propose, avant que nous rentrions dans le vif du sujet de la programmation, d'écouter un morceau de Tiki Paradise. Alors Tiki Paradise, c'est le collectif qui anime le bal des oiseaux, hein, si je ne m'abuse. On a écouté juste avant l'interview un tout petit extrait du teaser du bal des oiseaux avec les magnifiques costumes. J'invite les auditeurs à aller voir sur internet, hein, il existe un petit teaser où on sent un peu plus l'ambiance, parce que le bal des oiseaux, ça se voit et ça se vit d'ailleurs plus que ça ne s'écoute sur un enregistrement. Mais je te propose un morceau de Tiki Paradise. Le morceau choisi, ça va être Chaleur Chaude. Je trouve qu'il donne on est bien quand on écoute ça, et ça met de la chaleur à l'intérieur aussi. On écoute Tiki Paradise, Chaleur Chaude, et on se retrouve juste après Anne Le Goff, directrice artistique du Festival Vivacité, pour parler de la programmation. Ça te va?
C'est super.
Eh ben, on fait ça comme
merci.
Ça, alors.
À tout de suite.
À tout de suite. Chaleur chaude. Mmh.
chaleur chaude.
Quelle sacrée
chaleur chaude.
Quelle sacrée
chaleur chaude.
Quelle sacrée
chaleur chaude.
Quelle sacrée
chaleur.
Quelle sacrée
chaleur chaude.
Quelle sacrée
chaleur chaude.
Quelle sacrée
chaleur chaude.
Quelle sacrée
chaleur.
Chaleur chaude, chaleur chaude, chaleur chaude, chaleur. Chaleur chaude, chaleur chaude, chaleur chaude, chaleur. Chaleur chaude, chaleur chaude, chaleur chaude, chaleur. Chaleur chaude, chaleur chaude, chaleur chaude, chaleur. Lèche encore mes dents, la glace sur ta langue se balade.
Chaleur chaude. Chaleur chaude.
Quelle sacrée
chaleur chaude.
Quelle sacrée
chaleur chaude.
Quelle sacrée
chaleur chaude.
Quelle sacrée
chaleur.
Quelle sacrée
chaleur chaude.
Quelle sacrée
chaleur chaude.
Quelle sacrée
chaleur chaude.
Quelle sacrée
chaleur.
Chaleur chaude, Tiki Paradise, qu'on retrouvera sur le bal des oiseaux à l'occasion de Vivacité ce week-end. C'était de la chaleur chaude sur les antennes d'HDR et de Principe Actif. Nous sommes toujours avec Anne Le Goff, qui est directrice artistique du festival Vivacité, qui est également la directrice de l'atelier 231. On va revenir sur la programmation justement de Vivacité, qui se déroule ce week-end à Sotteville-lès-Rouen. Anne, tu nous disais qu'il y avait une grosse programmation européenne. Tu disais un quart de la programmation à peu près était européenne. Est-ce que déjà il y a une façon différente en fonction des pays, des cultures, d'aborder l'art de la rue? Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette programmation européenne?
Oui, alors effectivement, on peut parler de de tous ces artistes qui vont arriver de différents pays. Peut-être juste avant, je voulais faire un petit lien avec ce qu'on vient d'écouter, le groupe Tiki Paradise.
Parce oui.
Que, voilà, pour dire que comme on est sur une 35e édition, il y a effectivement ce grand bal très festif sur la place de l'Hôtel de Ville, qui va durer 3 heures, qui joue les 2 jours samedi et dimanche. Donc, je voulais aussi en profiter pour dire qu'il va y avoir pas mal de projets de balles, de musique. Il y a aussi la cité chanson du Trianon, puisque le Trianon transatlantique accompagne Vivacité depuis l'année dernière avec des propositions aussi musicales autour de philo, de musique des Antilles, etc. Il y a aussi cet esprit de l'ailleurs dans cette édition, donc ça va aussi rejoindre le thème de l'Europe, mais voilà, l'idée de l'ailleurs, du lointain, des autres cultures, de mettre en partage tout ça sur cette édition-là. Et puis, je voulais aussi citer, juste avant qu'on rentre dans les questions artistiques, le fait qu'il y a évidemment la Maison pour tous qui participe aussi à l'espace enfant, le bar dans les épinards, à l'espace chapiteau avec des concerts qui sont proposés. Donc voilà, quand je disais que c'est fabriqué avec plein d'associations, je voulais aussi ne pas oublier de citer tous ces protagonistes qui vont aussi amener de la musique, de la fête et de l'ambiance. Alors, pour revenir à cette question sur la couleur européenne du festival, il y a aussi des clins d'œil, parce que un festival 35 ans, il y a eu des équipes européennes qui sont venues dès 91 sur Vivacité, hein, dès la deuxième édition du festival. Donc, c'est vrai que on se dit, bon, bah, comment on peut faire des choses un petit peu particulières pour une édition anniversaire qui vient marquer aussi un temps fort sur la vie d'un festival. Eh bien, l'idée, ça a été d'abord d'inviter 2 artistes du réseau Intitu, qui est un réseau européen qui réunit maintenant plus de 25 partenaires dans toute l'Europe et au-delà, puisqu'il y a des liens aux États-Unis, au Kosovo, en Asie. C'est un gros réseau qui existe depuis 2003, dont l'atelier 231 est partenaire depuis le début, fondateur même, avec lieu public, le chef de file à Marseille. Et donc, on accueille 2 des 16 artistes associés à ce réseau, qui étaient associés à un projet qu'on a appelé Uncommon Spaces, de 2020 à 2024. Et donc, ces 16 artistes associés, ils ont été dans des parcours de recherche, de résidence croisée partout en Europe. Alors, on ne pouvait pas inviter les 16, bien évidemment, sur une programmation officielle qui invite une vingtaine d'artistes. Donc, moi, j'ai fait le choix d'en programmer deux qu'on avait accompagnés en résidence, en étape de travail, en résidence en Hongrie ou l'Arch de Caléder dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est important. C'est aussi comment on travaille à l'échelle européenne, mais comment la création européenne revient aussi au local et mise en partage avec les habitants et les gens. Ces projets-là, ils sont très, très nourris, imprégnés de cette couleur de ces résidences croisées, de ce parcours et ce dialogue avec 25 organisateurs européens, etc., etc. Donc ça, c'est l'Azanka Company avec Cosmic Care et l'Arch de Seth Honor avec Caléder. Donc ce sont des installations spectacles, des performances assez atypiques que j'invite vraiment tout le monde à découvrir. Il y en a une qui est sur billetterie, l'Azanka, donc attention, pensez bien à prendre vos billets à l'accueil public, puisque c'est une jauge à 35 spectateurs. Ça jouera, il y aura des groupes mixtes, des groupes que de femmes, et ça jouera 5 fois sur le week-end. Donc vous avez l'occasion quand même d'aller le voir. Et puis Arch, là c'est à 21h le samedi soir, ça joue deux nuits, et ça jouera qu'une fois le samedi soir. Donc si vous voulez le voir, il faut venir samedi à 21h. Pour la couleur européenne aussi, en clin d'œil, moi j'avais vraiment très envie d'inviter Neufeld Circus, qui était une compagnie qui avait été associée dans le cadre de projets européens par le passé, qui est venue sur Vivacité en 2016 avec un projet qui s'appelait Bloc, qui jouait sur la place de Telleville. Ça avait été un franc succès avec beaucoup, beaucoup de... vous voyez, ces compagnies qui créent le cercle autour d'elles et puis ce cercle qui grossit. Ils avaient joué 4 fois pendant le festival en 2016 et à chaque fois, c'était toujours plus gros autour d'eux parce qu'ils ont une énergie à revendre incroyable. C'est vraiment des circassiens, des acrobates hors pair. C'est une compagnie réputée en Angleterre qui a aussi des gros spectacles sous chapiteau. Ça, c'est leur troisième création espace public. Et donc, ça s'appelle Bambou. Cette équipe de Grande-Bretagne, elle a souhaité travailler à partir de cette matière de bambou non traitée, donc qui a gardé une forme de souplesse. Mais le bambou, c'est très solide. Et donc, ils l'assemblent, ils font tout un tas d'agrès éphémères avec ce bambou. Ils montent dessus, ils l'utilisent vraiment comme des agrès de cirque, sauf qu'ils sont plus flexibles et que c'est vraiment une matière qu'il a fallu qu'ils apprivoisent. Et nous, moi, je suis très contente qu'on reçoive cette équipe-là, et encore plus parce que j'aime à dire que l'Europe, c'est pas que des questions de territoire administratif, et que c'est pas parce qu'il y a eu le Brexit que les artistes anglais n'ont pas des occasions de venir présenter leur travail en France. Et nous, en tout cas, on est attachés à lever ces barrières-là, parce que la circulation des idées, de la création artistique, elle doit se faire partout, tout le temps. Et on doit pouvoir lever ces barrières liées au Brexit.
Donc, ça, c'est Bambou, ça joue anglais samedi et dimanche deux fois, hein, à chaque fois.
Oui, c'est ça. Alors, sauf Arch, ça joue que le samedi. Par contre, Bambou, ça joue deux fois par jour, effectivement, samedi et dimanche. Cas de Telleville, il y a vraiment l'occasion de voir ce très beau spectacle. C'est une création, hein. Alors, moi, j'ai vu des étapes, j'ai vu des choses, mais je n'ai pas vu le spectacle fini. Mais je leur fais totalement confiance. Et puis, c'est aussi ça, Vivacité. C'est un festival de création. Donc, c'est aussi des... c'est pour ça qu'il y a de la découverte, c'est qu'il y a certains spectacles, alors que moi j'ai vu, que j'ai repéré sur les festivals, évidemment, et puis il y a ces spectacles qu'on a accompagnés, suivis, des équipes qu'on connaît, et puis qui vont livrer pour la première fois leur création avec le public et les professionnels. Alors on a aussi, dans les choses un peu particulières, en fait, il y a aussi 3 partenariats avec des festivals européens. Le festival de Scamice à Véro, sur lequel j'avais repéré l'an dernier la compagnie Pia, qui est invitée cette année sur UST. C'est une compagnie portugaise. Elle vient avec son spectacle installation Passage. Donc ça, ce sera dans l'espace Marcelot. On peut aller se balader au milieu de cette installation qui est très douce, très belle dans tout cet espace-là. Ça commence à s'installer là dès à présent. Et puis, il y a un rendez-vous donné au public sur un temps vraiment de spectacle. Ce sont 4 comédiens qui jouent sur le masque, qui sont sur échasse. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des échasses. Ça pourrait paraître un peu vieux, un peu... surannée, mais pas du tout. C'est encore une expression qui permet plein de choses au niveau du théâtre gestuel, physique. Et donc, cette compagnie s'empare du masque et des écharpes pour habiter ces quatre personnages qui sont des vieux, qui vont nous inviter dans leur petit univers intime au départ. Donc, le public va se séparer sur quatre bulles avec ces quatre comédiens. Et puis ensuite, ils vont rassembler tout le monde autour d'un bal. Là encore, il y a du bal, de la fête. Ils vont se mettre à danser. Et puis surtout, on va voir que ces personnages sont un peu espiègles aussi à des endroits. Il y a des liens qui vont se créer, des couples ou au contraire, un des vieux qui est amoureux mais qui n'arrive pas à conquérir sa belle. Donc voilà, ça va être un spectacle qui vient du Portugal et qui jouera le samedi de nuit à 22h dans l'espace Marcelotte et le dimanche en après-midi, deux jours. Donc il y a deux versions. On peut choisir si on préfère le voir de nuit ou de jour.
Et puis l'installation qui est assez impressionnante, notamment sur ce spectacle, le passage, qui est en permanence installé.
Oui, voilà. L'idée aussi, c'est qu'au cœur de cet espace Marcelotte, qui est cet espace de verdure au milieu des habitations, et des écoles, c'est toujours d'amener des spectacles qui viennent scénographier aussi l'espace. On a eu Carabosse, il y a des souvenirs absolument extraordinaires de la compagnie Carabosse. Je rends hommage à Christophe Prinviel, d'ailleurs, son directeur artistique, qui malheureusement nous a quittés récemment, mais c'est vrai que c'était une grande compagnie et la compagnie va continuer à sillonner la France. Et voilà, ils nous ont fait des cadeaux merveilleux de poésie à travers le feu, la flamme dans cet espace-là. Et là, on a proposé à cette équipe portugaise de relever aussi ce défi de créer un vrai espace pour les gens qui habitent aussi tout autour. Alors, il y a le public évidemment du festival, mais je crois que pour les enfants, pour les familles qui habitent autour, c'est très ludique parce que tout d'un coup, leur espace de vie au pied de leur immeuble est transformé pendant 3-4 jours. Donc, ils vont pouvoir profiter de tout ça.
Alors, c'est plus de 20 spectacles qui sont proposés durant ce festival. J'avais envie de te poser la question, est-ce qu'il y a la plus petite compagnie? Est-ce qu'il y a le plus petit spectacle? Est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire, vos chouchous ou ceux que vous accompagnez? Parce qu'on a parlé des grandes compagnies européennes, là, notamment. Est-ce qu'il y a la toute petite compagnie ou l'expérimentation ou le petit truc auquel on s'attend pas? Est-ce qu'il y en a un comme ça que tu aurais en tête et que tu aurais envie de partager avec nous?
Le petit truc auquel on ne s'attend pas. Alors, c'est vrai qu'il y a des compagnies qui sont là avec leur deuxième ou troisième création d'espace public et qui sont vraiment des très belles choses. Donc, moi, je suis très contente de les accueillir. J'aurais peut-être deux exemples. Alors, c'est dont un qui n'est pas une petite compagnie, mais qui va nous accompagner dans quelque chose dans des récits plus intimes et très très proches avec le spectateur. C'est la compagnie Action d'Espace, François Rascalou. Il n'en est pas du tout à ses premières créations, mais c'est vraiment quelqu'un qui travaille des sujets forts dans l'espace public, qui invite aussi le spectateur à une vraie réflexion aussi de fond sur les sujets du monde. Comment va notre monde, de l'intime au collectif, à l'universel, de l'intime à l'extime, etc. Enfin voilà, il y a quelque chose de très particulier chez cet artiste et avec sa compagnie. Alors, Action d'Espace, ils vont nous proposer deux spectacles. Nous aurons la liberté, qui est un spectacle, en fait, c'est l'Université de Montpellier qui a passé commande à François Rascalou d'un spectacle sur la retirada. Cette fuite de 500 000 personnes, cette fuite de l'Espagne fasciste en 1939, une part très sombre de l'histoire, des conditions terrifiantes de cette retirada. Et donc, ce sont trois danseurs, comédiens et un peintre, poète, qui vont raconter passionnément, comme le dit le programme, avec douceur et rage, cette partie de l'histoire et en même temps donner à entendre aussi les histoires de tous les exils, de toutes les luttes. Donc moi, je crois que ces projets-là, évidemment, là, on sort un peu du côté effectif, mais ils sont tellement importants. C'est-à-dire que c'est aussi proposer aux spectateurs des parcours d'émotion aussi. On peut être aussi bien dans des sujets historiques forts qui nous donnent à réfléchir sur le monde et sa complexité. On le sait, il est de plus en plus complexe, ce monde à vivre, à appréhender pour les jeunes, etc. Rappelez aussi que cette liberté, elle a un prix. Et que cette liberté aussi d'être dans l'espace public, cette liberté d'expression dans l'espace public, c'est, je veux dire, on a encore ça en France, c'est tellement précieux. Donc, je crois que c'est important de rappeler qu'il y a eu des parts beaucoup plus sombres dans l'histoire et donc Action d'Espace le fait vraiment très joliment avec ce spectacle-là, qui est très documenté et donc il y a de la danse, il y a aussi tout un jeu avec des couvertures qui sont modelées en direct et qui vont représenter des paysages, des montagnes, etc. Donc voilà. Un petit spectacle à voir, et ils viennent aussi avec une autre création lumière, c'est une déambulation, et là ça parle du ravissement que François Rascali peut avoir quand il entend les savants et les sachants, comme il dit, à la radio, et tous ces personnes qui arrivent avec quelques phrases à parler du monde avec beaucoup d'espoir et de lumière. Donc ça s'appelle Lumière parce qu'il dit c'est des voilà, quand il écoute la radio, c'est des flashs de lumière sur qui lui permettent qui lui donnent de l'espoir. Et donc il avait envie d'embarquer ce savoir et de le faire avancer dans la rue avec des enfants, des danseurs, des extraits radio d'émissions qui le touchent. Et puis voilà, ça va parler de ce monde. Peut-être un dernier exemple sur un tout dernier, on attend.
Bon, vas-y, on va le prendre.
Avec Roman Skadra, qui est un artiste slovaque qui est basé en Allemagne. C'est un partenariat avec Kleine Festim Grossengarten. Et donc, c'est un festival à Hanovre qui nous a proposé cet artiste. Donc, il est à découvrir aussi dans les petites choses. Alors lui, il s'est attaché au mythe de Sisyphe, le roman d'Albert Camus en 1942 sur ce cycle de l'absurde. Et c'est vraiment cette question de la recherche en vain du sens de l'homme, d'une unité, d'une clarté dans un monde inintelligible. Et donc, donc c'est cette répétition mécanique de la vie, c'est cet homme là qui monte cette boule sur la montagne et qui n'y arrive jamais, qui répète ce mouvement là à l'infini. Et là on a Roman Skadra qui est sur cette grosse boule de 25 kilos, gros globe terrestre, et qui va flirter avec ça sur du de l'infiniment futile, de se jouer des situations désespérées, de la limite de l'endurance physique, émotionnelle, etc. Donc ça va être aussi très beau, parce qu'en fait, ce que dit ce mythe-là, c'est aussi est-ce que la prise de conscience tragique qu'on est parfois dans une répétition mécanique de la vie conduit au suicide ou à la révolte. Voilà, je laisse en suspens. L'auteur dit que ça peut conduire plutôt à la révolte et à se prendre conscience du monde.
On le rappelle, Vivacité, c'est samedi, dimanche, le 18 et 19 mai, à Sotteville-lès-Rouen. C'est la 35e édition. Je crois qu'on peut pas être plus clair. Il faut y aller, quoi. Voilà, tu nous as donné envie de venir découvrir et voir tous ces spectacles. Je le rappelle, un élément qui est important. Les spectacles sont gratuits. Ils sont tous gratuits.
Oui, tous les spectacles sont gratuits. Il y a un seul spectacle sur billetterie gratuite, c'est l'Azanka, parce que c'est des petites jauges. Certains spectacles ont des jauges un peu limitées, donc c'est marqué dans la page du programme. Donc il faut faire attention, on vient un petit peu en avance, c'est vraiment, on veut le voir absolument. Et puis, encore une fois, là j'ai parlé de spectacles qui sont évidemment plus intimes, mais ça va être vraiment cette édition anniversaire des 35 ans. Donc venez nombreux partager ce moment avec nous. Tout est ouvert, gratuit, le plus accessible possible.
Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Anne Le Goff. Je rappelle, tu es directrice artistique de ce festival Vivacité, directrice également de l'atelier 231 à Sotteville-lès-Rouen. Merci beaucoup. On s'est tous mis en retard. J'imagine qu'on t'a mis en retard, hein, parce qu'on avait dit qu'on te lâchait un peu avant, mais on t'a mis un peu en retard, ça fait plaisir. Et puis nous aussi, on l'est un petit peu.
Oh, je suis désolée. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup.
Ben, merci beaucoup à toi, Anne. Et puis, on l'aura compris, il faut aller à Sotteville-lès-Rouen ce week-end. C'est Vivacité. Venez vous faire surprendre ou voir des choses que vous avez repérées. En tout cas, dans les deux cas, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup, Anne. À bientôt.
Merci. Et très bonne journée. Au revoir.
Au revoir. Nous, on fait un court passage musical. Je ne sais pas si on va envoyer le morceau en entier parce qu'on est pris par le temps. On a dit qu'on allait parler cyclisme et qu'on allait parler handisport. On écoute un extrait de Feven Youssef, le temps de nous remettre en marche pour la suite.
سيرو بفكرو وهنانا تاي مهدرو فترتو وعركو سريو بتباب بقلدو سوقن علي سورو فكر بايوكو
Feven Joseph, comme je vous le disais en introduction, artiste éthiopienne qui propose une musique très douce, c'est du vest, c'est du doudou. Nous poursuivons cette émission et nous avons Gérard avec nous. Gérard est président de l'association Cyclisme Assistance. Bonjour Gérard, comment allez-vous? Où en êtes-vous dans votre journée?
Bonjour, pour l'instant tout va bien.
Alors est-ce qu'on en est au café, aux tartines ou la journée a déjà bien commencé?
C'est déjà bien commencé, c'est déjà bien commencé. Je me dirige là sur... je monte sur le Neubourg, on va flécher toute la journée le parcours de la quatrième étape.
Alors justement, on est en échange aujourd'hui à l'occasion du Tour de l'Eure Junior, course cycliste sur 3 jours. En quelques mots, qu'est-ce que ce Tour de l'Eure Junior ?
Alors, donc c'est une course qui est assez ancienne, hein, puisqu'on en est à la 37e édition. C'est donc une course assez particulière qui s'adresse uniquement aux coureurs juniors, c'est-à-dire les jeunes ont de 17 et 18 ans. Nous, on s'est basé essentiellement sur la formation. Voilà, on essaie de former les futurs champions, on va dire.
Ils viennent d'où tous ces jeunes du Tour de l'Eure? C'est une compétition qui intègre des jeunes qui viennent d'où?
Alors, on a 28 équipes, hein, ça se court en équipe de 5 coureurs. Donc on a 28 équipes sur la ligne de départ, on a 3 équipes étrangères et les équipes françaises, mais qui viennent donc de toute la France. Hein. On a de Bretagne, de l'Est et la plus éloignée de la région de Toulouse.
Oui, donc ça fait quand même, oui, c'est une compétition, une grosse compétition du coup pour les juniors.
Oui, c'est un au niveau. Alors cette course, elle est inscrite au calendrier national, hein, de la Fédération française, et donc c'est un rendez-vous attendu, hein, par les jeunes et par leur club, parce que on est l'unique course en 3 jours pour cette catégorie-là en France. Donc forcément, ça attire.
Alors le Tour de l'Eure, est-ce qu'on prend les limites du département et on fait le tour, ou comment ça se passe? Quel va être le parcours? Quelles vont être les étapes?
Alors non, on fait pas le tour du département. C'est un peu comme le Tour de France. Hein, c'est des villes qui sont un peu candidates pour nous accueillir. et on essaye de tracer des étapes autour des candidatures qu'on reçoit, quoi. Voilà, de l'intérêt des villes. Donc là, pour cette année, la première étape, le samedi, ça va se courir sur la région de Conches, hein, entre Le Fidler et Conches. La deuxième étape va démarrer de Vernon et se terminer aux Andelys. Et la troisième étape, donc le lundi matin, ça sera un contre-la-montre par équipe entre deux petites communes du plateau du Neubourg, entre Créteaux et Marbeuf. Et le lundi après-midi, pour finir, l'étape finale, ça sera entre le Neubourg et Louviers.
Alors c'est l'occasion, notamment sur les étapes et notamment sur la ville de Conches, ça je suis au courant. Après sur les autres, je le sais pas forcément, mais c'est l'occasion aussi de proposer des ateliers et puis une sensibilisation au cyclisme.
Oui, absolument. C'est-à-dire que on essaie là depuis une ou deux années, c'est un peu notre axe de réflexion et de développement, de proposer autour de la course purement sportive, de proposer des animations sur les lignes d'arrivée pour créer un vrai événement populaire. Voilà, revenir à la base du cyclisme populaire. Et notamment à Conches, il y aura un musicien qui fera des intermèdes, il y aura un stand du conseil départemental, enfin il y a pas mal d'activités. Et puis il y a quelques enfants des écoles aussi qui feront une petite balade à vélo, qui passeront sous la ligne d'arrivée. Enfin voilà, on essaie de créer vraiment un engouement populaire autour de la course, quoi.
Alors vous le disiez, le cyclisme est populaire. C'est l'occasion aussi d'en faire une fête de cette compétition de cyclisme. On est vraiment pris par le temps. Je vais devoir vous abandonner, Gérard. Mais en dernier mot, on va vous voir sur les villes en étape. On peut trouver des informations sur Internet.
Alors on peut trouver toutes les infos sur le site tourdeleure.fr. Et surtout, pendant le week-end, le samedi, le dimanche et le lundi, on peut regarder la course en direct, puisqu'on a un live, on a deux motos images et c'est relayé sur les réseaux sociaux. Donc on peut suivre les étapes en direct. Donc c'est des prises d'antenne aux alentours de 15h tous les jours.
Eh bien, merci beaucoup Gérard. On suivra ce tour de l'heure sur nos écrans, exactement. Merci beaucoup Gérard.
C'est moi qui vous remercie.
Et nous, on va se quitter là-dessus en vous souhaitant une bonne journée. Restez à l'écoute de nos programmes parce qu'ils sont cools.